France Inter.
C'est déjà incroyable que des becs s'inscrivent à un concours d'éloquence. C'est un peu se foutre une balle dans le pied, mais j'adore le concept. Et faire ce concours, en fait, ça m'aide aussi énormément sur plein d'aspects de ma vie. C'est une sorte d'exutoire.
Au-delà du blocage, de la difficulté ou même du handicap, prendre la parole en public, réussir à être éloquent, à convaincre, ce n'est naturel pour personne. 8 jeunes sur 10 ont déjà renoncé à intervenir à l'oral par manque de confiance en eux. Ce sont les chiffres d'une récente étude Opinionway. Un tiers des jeunes femmes déclarent même qu'elles n'osent tout simplement pas donner leur avis.
Le secret pour prendre la parole, c'est de comprendre que finalement, à tout âge de la vie, on peut se permettre de s'exprimer tel qu'on est. J'accompagne beaucoup de personnalités publiques, d'artistes, de dirigeants du CAC 40, Madame la Boulangère, que je respecte tout autant, ça m'est arrivé. J'aime beaucoup parler de l'élégance de l'oralité.
Au moment où les lycéens relisent leur dernière fiche pour préparer le grand oral du bac, Interception donne la parole aux timides comme aux orateurs nés, à ceux qui perdent l'équilibre et à ceux qui jonglent avec les mots parce qu'ils ont trouvé les clés qui leur permettent de s'exprimer. C'est dans les coulisses d'Eloquentia, concours annuel d'éloquence, que commence cette émission. Tous éloquents, c'est un reportage de Sophie Parmentier.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
On est plongé dans une ambiance complètement intimiste, au milieu de gongs. Il y a autour de moi des jeunes, filles et garçons, allongés sur des tapis de sol, les yeux fermés, immergés dans ce bain sonore destiné à les relaxer avant la finale d'un concours d'éloquence.
On appelle ça de la méditation, du coup, d'une certaine manière.
Le début était une méditation, okay. Les 10 premières minutes. Et après, on peut appeler ça de la sonothérapie, la musicothérapie, quel que soit le terme. Donc, en tout cas, peu importe, l'intérêt, c'est de le ressentir, quoi.
Au début, c'était vraiment très difficile de justement lâcher prise et même écouter. Mais ça ressemble à la prise de parole, hein. C'est dur d'écouter aussi, ça se travaille.
Vous êtes qui, vous ?
Tanina. Et vous ?
Clément. Bah là, on peut y aller tout de suite à la finale. Là, je crois qu'on est prêt. Hein.
Vous avez lâché un peu d'ego. Pensez à respirer. Vraiment très important.
Dans quelques minutes va démarrer la grande soirée de la finale du concours Eloquentia à la scène musicale. Et je vais aller faire un tour dans les loges que ces jeunes ont rejointes avant de monter sur scène.
Bienvenue.
Vous avez une loge ?
Ouais, on a notre petit espace à nous pour se reposer, se recentrer avant de prendre la parole devant 3500 personnes.
Vous voulez vous asseoir ?
Oui.
Là, dans le fauteuil vert ? Je vous demande de vous présenter, avec éloquence évidemment.
Alors, je suis Tanina, j'ai 27 ans, je viens de terminer mes études en droit social, donc je suis juriste la semaine, depuis peu, et danseuse les week-ends.
C'est quoi votre histoire avec la parole ? Est-ce que vous avez grandi dans un environnement où on chérissait les mots, où on jouait avec, ou à l'inverse, où on parlait peu ? Comment vous arrivez là, à ce grand soir, avec ce concours d'éloquence ?
Alors au contraire, j'ai pas du tout eu un entourage qui valorisait la parole ou la lecture, qui est très liée justement. Moi, l'amour pour les mots, il est venu parce que j'avais ce besoin de m'exprimer. Et mon cercle familial, mes proches, etc. ne me le permettaient pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait un peu finalement dans la violence. Quand on a des choses très très lourdes, en fait, on a envie de les exprimer, de les lâcher. Et donc moi, j'ai commencé par beaucoup écrire. Alors ça n'avait aucun sens, c'était pas du tout beau, je préfère que personne ne lise ce que j'ai écrit, mais c'était un premier, une bouteille qu'on jette à la mer, quoi. Et je crois qu'en fait j'aime bien dire ce que j'écris aussi. Et si en plus derrière il y a une réflexion qu'on met au service d'un message qu'on veut faire passer, bah, c'est encore plus important. Donc mes études m'ont bien aidée, et ensuite c'est le cœur.
Est-ce que vous trouvez que la parole a un pouvoir puissant ?
Oui, la parole a un pouvoir puissant pour les personnes qui l'utilisent. Elle a aussi un pouvoir puissant pour les personnes qui écoutent. Là, c'est la première fois de ma vie que je vais faire un discours où c'est 100% moi.
Allez-y. Ok, let's go.
Allez, on grimpe dans l'ascenseur.
C'est zéro hein, pour la scène, je crois.
La scène, la grande scène.
Ok, let's go. Ça doit être ça. Bonsoir, la scène musicale, comment ça va? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on mérite.
Bienvenue à la Casa Eloquentia.
Nous avons l'honneur d'être vos maîtresses de cérémonie pour cette finale internationale.
International, pour les noms francophones.
Du plus grand concours de prise de parole en public francophone.
Dans un instant, Tanina et d'autres candidats vont grimper sur cette scène, sous les projecteurs, face à des milliers de personnes. Et la salle déjà bondée est assez impressionnante. Tanina doit discourir sur la vie à l'école, l'école de la vie.
J'adore. Tu vas me rejoindre,
Tanina ? Ça va ?
Non.
Non, ça va pas. Ça va aller dans quelques minutes. Ça fait 3 semaines qu'ils se préparent à ce discours. Sur la ligne de départ, ils étaient 2200.
À vos mots,
prêts.
Parlez. J'étais cet enfant qui avait un sac à dos extrêmement lourd depuis le jour où il s'est caché pour ne pas entendre papa et maman se disputer. J'étais cet enfant qui reproduisait dans la cour de récré ce qu'il ne veut plus voir à la maison se répéter. J'étais cet enfant qui cherche à défier l'autorité. Alors il a cherché, cet enfant. Il a cherché et tout ce qu'il a trouvé, c'est un aller simple vers le bureau du CPE. Et le CPE... Tanina, t'es algérienne ? Première injustice. Première fois où je me rends compte que mon identité, c'est pas juste ce que je crois. C'est le jugement que l'autre projette sur moi. Alors à tous ces enfants, sans famille, à qui on a donné un aller simple, direction l'école de la vie, aux enfants, frappés, aux enfants, rejetés, aux enfants, abandonnés, ce qui compte, c'est de vivre sa vie, malgré les détours. Mais le plus important, c'est d'exister dans l'amour.
Vraiment, bravo. Tanina a défendu la positive sur le sujet, la vie à l'école, l'école de la vie.
Je vais retourner faire un saut dans les loges où les autres candidats se préparent. Je vais aller voir Clément, le plus jeune des finalistes. Ce sera bientôt son tour.
Je m'appelle Clément Achard, j'ai 19 ans, je suis étudiant en BUT carrière juridique à Grenoble. J'ai commencé l'éloquence il y a quelques années, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, mon tout premier concours. Ma grand-mère maternelle m'a fait découvrir l'éloquence. Elle a été hospitalisée à domicile en soins palliatifs chez moi, parce qu'elle était atteinte d'un cancer. Donc on a commencé à notre tout premier concours d'éloquence, et donc tous les soirs j'allais chez elle, on travaillait ensemble les concours d'éloquence. Elle m'a appris les meilleurs secrets, les meilleurs conseils, et le jour où elle est partie, je me suis promis que je continuerais dans cette voie, et j'en suis arrivé là aujourd'hui.
C'était quoi le métier de votre grand-mère ? Elle avait un métier en rapport avec l'éloquence, avec les mots, la parole ?
Elle était professeure de français dans un collège en Nord-Isère, et elle était aussi accessoirement entre les cours, entre midi et deux, elle était professeure de théâtre. Mes parents me répètent souvent que lorsque j'étais petit, quand on me posait dans un parc pour enfants, il me fallait un quart d'heure pour être debout sur une table et faire un discours à tout le monde pour dire « voilà à quoi on va jouer, voilà ce qu'on va faire ». J'avais cette chose-là de rassembler le public, d'épater le public. Je l'ai eu aussi à l'école. Donc les professeurs me disaient que j'étais un petit peu hors cadre scolaire. C'est d'ailleurs la thèse que je vais défendre ce soir.
On va accueillir notre dernier candidat.
Oh.
C'est déjà le dernier de la soirée.
Clément ! Oui ! On vous prend tout à fond ! Clément !
la vie nous apprend beaucoup plus que l'école. La vie et l'école sont deux enseignements totalement opposés. Parfois, la vie va taper fort. On va vivre des choses terribles. On ne sera pas préparé. Tu chercheras des solutions, mais la seule chose que l'école t'apprend, c'est quoi ? C'est d'appliquer le théorème de Thalès ? Je veux dire, on a tous déjà entendu parler de Pierre qui souhaite remplir la baignoire un tiers fois moins que Jean, qui lui l'avait rempli deux fois plus que Jacques. C'est complètement idiot parce que dans la vie, cette situation n'arrive jamais. Au pire, tu prends une douche, on est d'accord. Bref, on apprend la vie sur le terrain de la vie. Et le fonctionnement même de la vie n'est pas le simple fait d'exister, mais de vivre sa vie. Sénèque disait, c'est la vie qui nous apprend et non l'école. Sénèque avait raison.
La personne qui repart avec le titre de meilleur orateur ou oratrice de la 8e finale internationale 2025 du plus grand concours de prise de parole en public de la francophonie est
Gentlemen, voici le jeu qui veut gagner des millions.
De Paris à Montpellier, on file à un autre concours d'éloquence. Celui-ci est quasi unique en son genre.
Le bégaiement est contagieux. Tous ceux qui pensent vrai, levez la main.
C'est un concours d'éloquence de la différence. Ici, tous les candidats sont bègues.
Faux, c'est une neurodifférence présente depuis la naissance. C'est comme la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. On est avec 3, 2, 1, top. Il y a plus de garçons que de filles qui bégayent. Vrai, levez la main. Faux, baissez la main.
Deux enfants sont en train d'introduire le spectacle avec humour avant la finale.
Vrai et faux, ça dépend de l'âge.
Mais seuls des adultes seront en lice pour convaincre avec leurs mots.
Chez les jeunes enfants, il y a autant de filles que de garçons, mais en grandissant, il y a plus d'hommes que de femmes.
Le bégaiement est parfois caché. Je suis le bégaiement, je dois me cacher de Younes parce qu'il m'en veut que je le fais bégayer.
Nous déclarons ouvert la grande finale du concours d'éloquence du bégaiement de Montpellier.
Enfant, je rêvais de bonheur comme d'un ciel rayonnant, éclatant, lumineux et plein de vie. Mais n'ayons pas peur des mots. Le bonheur est comme un papillon. Il vole sans jamais se poser. Et je suis le premier à être insatisfait. Regardez, je me suis inscrit à ce concours d'éloquence. J'ai dépassé mes limites, mais je sais que je peux faire mieux encore.
On va rentrer dans cet amphi.
Comment avez-vous envie de vous présenter à la radio ? Dites-nous.
Ah, je m'appelle Malvin. J'ai 27 ans. Je bégaye depuis mes 4 ans à peu près. Et je le vis vraiment comme un truc qui me bloque dès qu'il y a un peu d'émotion ou alors d'angoisse. Et en fait, j'ai genre vraiment du mal à parler. car je sais juste avec un groupe qui m'écoute.
Et pourtant, vous vous lancez dans ce concours d'éloquence, c'est un challenge ?
Alors oui, c'est aussi, je veux dire, réussir à dépasser ça. J'ai très envie de l'assumer à 100%, je veux dire, de vraiment remontrer aux gens que c'est un handicap qui n'est au final pas vraiment tabou. Lisez un peu ça.
Merci Melvin. Et bonne chance pour la finale de ce concours alors. Voilà, je vais maintenant aller voir un autre candidat. Il s'appelle Kevin. Il s'est inscrit sur les conseils de son orthophoniste.
Kevin Gallman, j'ai 42 ans. Je bégaye, il faut pas, enfin il faut pas, en tout cas c'est ce que moi je me dis, et du coup ça vient rajouter une pression supplémentaire avec la crainte du jugement, la crainte de pas être compris, la crainte finalement d'ennuyer, que ce soit trop long pour l'autre. Enfin, voilà, il y a tout un tas de pensées limitantes et négatives qui se mettent en place. Je bégaye beaucoup moins quand j'ai une prise de parole importante, quand il y a un enjeu. Un entretien d'embauche, je ne bégaye, je crois, pas du tout. Et plus la sphère devient intimiste, privée, familiale, et plus je bégaye. Quand je discute avec mes parents ou ma femme, enfin, je fais pas une phrase, si ce n'est un mot, sans bégayer. Peut-être parce que justement, c'est un peu du lâcher prise, il n'y a pas de crainte du jugement, rien. Alors ça, c'est ce que je pense, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que je crois le vivre.
Pour vous, ça a commencé quand, les problèmes de bégaiement ?
Le plus tôt que je m'en souvienne, c'était à l'âge de 6 ans. Un soir, à Noël, j'ai voulu commencer une phrase. Je me souviens très bien, c'est une phrase qui commençait par « il ». Alors peut-être que je parlais du Père Noël, je ne sais pas. Et il a été impossible pour moi de dire « il ». Ça a fait « i, 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 i » et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à parler, à prononcer ce mot. Et c'est le tout premier souvenir que j'en ai. Voilà. Après, il y a un héritage familial. Tous les hommes du côté de la famille de mon père bégayent. Mon grand-père, mes oncles, mon père, c'est le seul qui a su le maîtriser spontanément. Voilà, donc il y a une part génétique.
Vous aviez 6 ans, vous parliez donc depuis plusieurs années. Oui. C'est la première fois que vous vous entendez bégayer. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Une frustration de pas être capable de m'exprimer, de l'incompréhension. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas ? Certainement, a posteriori, peut-être un peu de tristesse, en prenant conscience que je n'arrivais pas à pouvoir m'exprimer comme je le souhaitais. Et puis après, il faut faire avec et l'accepter et passer des années scolaires très très compliquées, parce qu'entre enfants, la méchanceté est très facile. Toutes les années scolaires jusqu'au lycée ont vraiment été très dures. En fait, toute ma vie, je ne sais pas, c'est ma propre crainte, toute ma vie, j'ai cru que lorsque je bégayais en discutant avec quelqu'un, cette personne allait penser que je suis bête. C'est-à-dire, faire le raccourci, il n'arrive pas à parler, c'est qu'il a un souci mental. Et un jour, je me suis dit, il suffit que je pose la question à tout le monde. Donc j'ai fait le tour de tous mes collègues de travail en leur demandant, quelle a été ta première réaction lorsque on a parler ensemble, comment est-ce que tu l'as vécu, qu'est-ce que tu as pensé la première fois qu'on a échangé, la première fois que tu m'as vu bégayer, et finalement, toutes les réponses ont été les mêmes. Personne n'avait émis le moindre jugement, et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, la seule personne que ça dérangeait vraiment, c'était moi, plus que les autres. Et il y a des techniques pour réussir à, en modulant la vitesse d'élocution, réussir un peu à adoucir les sons sur lesquels on sait qu'on bégaye pour pouvoir le gérer un peu mieux. Mais surtout, ce qu'on nous apprend, c'est que le fait de bégayer n'est pas grave, enfin qu'il ne faut pas s'excuser de bégayer, tout comme on ne s'excuse pas de porter des lunettes.
quand mes lèvres sont scellées, que je ne sais que dire, quand je ne sais que pleurer, quand je voudrais sourire. Mes mots glissent tout bas pour éviter le pire, mes mots comme des soupirs, il me restera ça. Quand on voudrait fixer chaque souvenir, chaque nom, pour ne rien oublier de chaque sensation. Les mots sont nos combats, les mots sont l'émotion. Nos mots comme chansons, il nous restera ça.
Alors, je suis Laure Janquier, orthophoniste. Je travaille depuis une vingtaine d'années et je me suis spécialisée dans le bégaiement depuis une quinzaine d'années. Entre autres parce que ma fille a commencé à bégayer à l'âge de 2 ans et demi. Pour un parent, c'est terrorisant parce que le bégaiement est vraiment perçu comme un handicap social. Et puis après, effectivement, en tant qu'orthophoniste, dire « mais c'est pas possible, je suis orthophoniste, pourquoi ça se passe comme ça ?» Et depuis, je reçois beaucoup de personnes qui bégayent, que ce soit des petits de 2 ans, 2 ans et demi, à... voilà, à l'âge adulte. On remarque chez les personnes dont le bégaiement est installé, donc souvent après 6 ans, que pour cacher leur bégaiement, ils vont parfois éviter certains mots. Donc ça peut faire des enfants qui ne finissent pas leur phrase. Ou alors qui vont commencer une phrase et qui vont dire « Ah ben je sais plus ». Alors qu'en fait ils savent très bien, mais ils fuient. Parce qu'ils vont sentir que le bégaiement arrive, donc ils vont arrêter en disant « Je sais plus ». Et ça peut aller très loin. On peut avoir des patients qui, par exemple, des personnes, pardon, qui, par exemple, vont changer de mot et ça va changer tout ce qu'ils veulent vraiment. Je prends l'exemple d'une personne qui est dans un bar avec des amis et qui veut boire un coca et qui sent que le que, il commence à bloquer, que ça sort pas et qui va demander un jus. Vous voyez ? Donc ça, c'est de l'évitement. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut travailler en orthophonie. On aide la personne aussi à gérer émotionnellement. Et on a beau le travailler, l'amener à lui montrer différents exemples de personnes qui ont réussi leur vie, comme des personnes célèbres qui bégayent ou des...
On peut en citer des personnes célèbres qui bégayent ?
Oui. Joe Biden déjà, Ed Sheeran, François Bayrou, Marilyn Monroe. Il y a le joueur de foot, les ados l'adorent, Dayot Upamecano.
Donc ça, vous le dites à vos patients ?
Oui, tout à fait. Et puis surtout, depuis quelques années, on assiste vraiment à une revendication de la neurodifférence, quelle qu'elle soit. Et le bégaiement en fait partie.
Au-delà de la performance, de l'envie de briller ou de se faire entendre avec des formules choc ou des bons mots, oser parler à voix haute, c'est parfois vital. Pour les timides, les taciturnes, les inquiets, les anxieux, s'exprimer à l'oral devient très vite handicapant à l'école, puis lors des entretiens d'embauche. Comment parler de soi à un employeur quand la peur nous paralyse ? C'est justement le thème de la formation qu'organise France Travail à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Et c'est au milieu des jeunes et des formateurs qu'on retrouve Sophie Parmentier.
Interception sur France Inter.
Au choix, soit vous mettez deux comme ça, soit un. Vous mettez ce qui vous paraît le mieux pour que vous soyez plus à l'aise.
Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Donc, il y a à peu près 2 semaines, on a commencé à faire une préparation pour un événement qui s'appelle Patron dans ma ville. Et l'idée, c'est de continuer à faire cette préparation en mode training. Hein, l'idée, c'est de continuer à s'entraîner, à se présenter et à prendre la parole en public pour que demain, on soit prêt à la rencontre avec les employeurs. Donc, je me représente à nouveau pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je me présente, c'est Rabat Kasmi. Donc, je suis conseiller à l'agence de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je vais passer la main à mes collègues qui sont présents pour se présenter également.
Bonjour à tous, à ceux que je connais et que je ne connais pas. Donc, Julie Quetteville, conseillère à la mission locale. Le but, c'est que ça se passe bien pour tout le monde, que ce soit fait d'une manière tranquille, sans stress. On l'a vu la dernière fois, quand on est un peu stressé, on a tendance à avoir un débit qui est très très rapide. Parce qu'on a envie que ça se finisse vite, en fait. On a envie de vite passer pour se dire, hey, ça y est, mon tour est venu. Il ne faut pas hésiter, une fois que vous avez donné votre phrase, à faire un petit temps de pause. On reprend son souffle et on repart sur la phrase d'après. D'accord ?
Allez, qui peut se lancer ?
Du coup, je m'appelle Siam, j'ai 23 ans, je suis née à Rouen. J'aime le dessin et la décoration. Je souhaite ouvrir mon activité dans la personnalisation d'objets et de textiles. Étant une personne très manuelle et qui aime beaucoup la décoration, ça a toujours été une idée qui me trottait derrière la tête. Mais ayant une passion pour la petite enfance et la personnalisation, j'aimerais par la suite allier les deux. Je suis une personne très créative, un peu perfectionniste, autonome, et j'utilise certains logiciels tels que Canva, Photoshop, PowerPoint.
Et comme... moi, je ne mettrais pas forcément des étant passionné, ayant, je ne le présenterai pas comme ça, mais je dirais je suis passionné, étant, ayant à la rigueur à l'écrit peut-être, mais à l'oral, je trouve que c'est moins percutant. Tu ramènes à toi, c'est toi que tu présentes. Je suis passionné, j'ai une passion pour la petite enfance, et c'est très bien, ça passe parfaitement comme ça.
Exactement.
Pourtant, je sais ce que je dois dire, je sais ce que je dois dire, mais dès que je vais être devant les personnes, c'est catastrophique. J'ai déjà fait un entretien et j'étais pas à l'aise du tout. Je répondais vraiment, c'était des réponses très brèves. Je voulais juste que ça se finisse en fait. C'est plus le stress, moi, qui va me paralyser.
Qu'est-ce qui peut bloquer la prise de parole, c'est quoi? C'est ça y est, je suis vu, il y a tout le monde, mais on dédramatise. Dédramatiser, il va rien se passer en fait de grave, ou on va pas passer sur le JT, ou on va rencontrer un employeur et on va lui parler de qui on est, de ce qu'on peut lui proposer, de... c'est tout.
Je m'appelle Alami Adem, bonjour. Je suis là à Saint-Étienne-du-Rouvray et je vais faire un métier de chauffeur de bus. Moi, j'ai 20 ans.
3 minutes pour parler de vous.
Ouais.
C'est dur.
Oui, c'est dur. De... Ouais, c'est dur.
Vous êtes intimide?
Oui, je suis timide un peu. Surtout dans les moments comme ça.
Ça vous gêne, en fait, pour chercher du boulot? C'est compliqué pour vous?
Mais c'est trop compliqué pour moi. Quand je parle, par exemple, j'ai bloqué tout le temps.
Vous avez ça. La gorge nouée, là. Vous montrez, vous avez une main sur votre gorge. Vous êtes,
oui, normalement.
Vous êtes stressé.
Oui, trop. C'est ça.
Là, je vous laisse continuer à vous entraîner.
Adem, essayez de me dire que vous parlez avec des amis, en fait. Que vous êtes en train de rencontrer des personnes qui potentiellement peuvent devenir des amis et qu'on parle tranquillement.
Top, c'est parti.
Bonjour, je m'appelle Denise, j'ai 20 ans, je vis à Saint-Étienne-Jouvray. Je suis né à Rouen. Mes qualités, je suis sérieux, je suis à l'écoute. Je suis organisé aussi et je suis déterminé. Mes projets, j'ai fait une petite liste. En premier, c'est la sécurité privée en fait. Après, en deuxième, j'ai mis électricité. Niveau parcours scolaire, j'ai fait un bac pro. Je l'ai raté. Juste après, bah, j'ai arrêté les études, j'ai commencé à travailler. Voilà.
Comment vous vous êtes senti, vous, dans cette prise de parole?
En fait, moi, je suis pas du tout sociable. Du coup, j'ai du mal, en fait, à parler devant autant de personnes. Déjà que devant un employeur, quand on est seul à seul, je stresse, alors que là, on est plus de 10. C'est encore plus difficile. Je me sens mal à l'aise. Je trouve à chaque fois un petit baratin pour partir. Moi, je suis comme ça depuis que je suis petit, en fait. Même quand j'étais en cours, on m'entendait jamais, en fait. Je sais pas c'est pourquoi, mais même pour prendre la parole par un petit truc, je stresse. C'est pour ça, tout à l'heure j'ai un peu stressé, j'ai même oublié quelques mots.
Vous êtes fier quand même d'avoir pris la parole tout à l'heure? J'ai l'impression que vous vous êtes lancé, vous vous êtes un peu jeté à l'eau.
J'ai essayé de faire l'effort en fait, de ne pas regarder la feuille, parce que devant les employeurs, je vais pas regarder une feuille. Il faut que tout soit dans ma tête. C'est un peu aussi pour ça que j'ai un peu plus stressé, parce que j'avais pas la feuille devant moi. Et on a essayé de faire l'effort.
Les mots s'envolent sans laisser d'autres traces qu'un rayon de lumière, qu'un peu d'air. Les mots s'envolent et retournent sans cesse à leur lieu de ne l'essence, le silence.
Me voilà dans le centre de Paris. J'ai rendez-vous dans un espace cocon, comme dit l'une des grandes coaches de la prise de parole. Martine Guillot est une spécialiste reconnue qui entraîne des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des artistes. Bien s'exprimer à l'oral, c'est aussi un défi pour ceux qui ont de grosses responsabilités publiques ou privées.
Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Je suis ravie de vous rencontrer.
Oui, moi aussi, merci de ce temps ensemble dans ce lieu que je loue régulièrement pour recevoir toute personne qui a envie de travailler sur son éloquence. Je vous en prie.
Allez, je vous suis.
Merci. En plus, on a une belle lumière aujourd'hui.
Ah ouais, il fait soleil, c'est chouette.
Voilà.
Les gens qui viennent vous voir pour des conseils sur l'éloquence, ils viennent plutôt en catimini du coup, ils préfèrent être discrets.
Ça dépend, mais c'est vrai que par exemple dans les politiques, c'est toujours très mal vu de dire qu'on travaille sur son art oratoire. Surtout, malheureusement, les hommes ont la difficulté de dire qu'ils travaillent sur eux, sur cette légitimité de la parole et de la communication.
Je crois que vous m'aviez dit que vous aviez rendez-vous avec un politique juste avant. J'imagine qu'on ne peut pas dire son nom.
C'est bien le problème. On ne peut malheureusement pas divulguer la personnalité. Mais en tout cas, oui, tout à fait. Parce qu'il avait une prestation très spécifique avec un discours un peu complexe, touchy, sur lequel on a pu, comme un acteur, répéter et le mettre en bouche, comme on dit.
Vous avez écrit un livre intitulé « Vous allez adorer prendre la parole ». C'est quoi le secret ?
Le secret pour prendre la parole, c'est de comprendre que finalement, à tout âge de la vie, on peut se permettre de s'exprimer tel qu'on est. Et j'accompagne beaucoup de personnalités publiques, d'artistes, de dirigeants du CAC 40, Madame la Boulangère, que je respecte tout autant, ça m'est arrivé. En fait, elle n'a jamais pris conscience que... Elle avait des difficultés à communiquer et surtout, elle ne se sentait pas légitime à parler à des gens qui pourraient avoir de la culture, ce qu'elle pense ne pas avoir. Et j'aime beaucoup parler de l'élégance de l'oralité. Je pense que si on est respectueux et qu'on est élégant, tout message peut avoir du poids et être transmis.
Souvent, c'est source d'angoisse de prendre la parole. Il y a plein de gens qui n'osent pas, qui s'inquiètent et qui, du coup, préfèrent se taire plutôt que de se lancer dans un discours et ils ont peur du regard des autres.
La glossophobie, ça s'appelle comme ça, c'est absolument terrible, ça touche tout un chacun. Ça commence dès le plus jeune âge, surtout en France, on n'en a pas vraiment l'habitude de travailler là-dessus, plus que dans les pays anglo-saxons. Effectivement, c'est vraiment la mise en abîme de ses émotions, comment est-ce qu'on est perçu, ce qu'on donne à voir, et puis après, aimer sa voix ou pas, et puis qu'est-ce qu'on fait de ce corps qui peut nous tétaniser, nous paralyser, et cette légitimité de se sentir ou pas, de communiquer un contenu. Donc oui, ça touche tout le monde.
Je vous vois parler beaucoup avec vos mains. Ça, c'est important de parler avec son corps aussi. C'est aussi ce que vous dites dans vos séances de coaching.
Moi, je pense que le corps, on est un Stradivarius. On est un instrument. Il faut prendre conscience de tout l'instrument. Le corps sait quoi faire. Mais comme on est dans le contrôle, et ben, tout d'un coup, on bloque, on ne respire plus, on est en apnée. Et donc, la gestuelle est embarrassée.
Vous voyez arriver devant vous des gens qui ont des blocages de la parole.
Plein de blocages, des difficultés au niveau de l'expression technique, comme si les idées s'entrechoquaient dans leur mental, et puis d'autres qui ne supportent pas regarder les gens, ou en tout cas s'adresser via le regard, et aussi ont beaucoup de complexes physiques.
Qu'est-ce que vous faites avec eux? Vous pouvez me montrer ce que vous faites avec eux?
Je leur demande de se lever.
Ah, on se lève, allez,
voilà, on se lève, et puis là, je leur demande donc de venir me raconter une histoire et d'essayer de projeter un peu plus la voix, d'articuler.
Pour se détendre, en fait, et de se lâcher, en fait.
Exactement, pour que les tensions puissent se libérer. On se rend compte que souvent, aux omoplates, c'est là où il y a toute la tension, que les bruxismes, le serrage de dents. Donc, je leur demande déjà de chercher la verticalité, d'allonger cette colonne, j'aime bien dire déplier les corps. On peut bouger si on a envie de faire un peu comme un stand-up, se déplacer, parce qu'on a besoin, j'aime bien parler de chalouper de la prise de parole, où tout d'un coup l'oxygène va être libre. Les Indiens disent qu'on respire par les doigts de pied, que le cheveu est vivant. Et puis après, je leur demande de fixer un point, et ensuite voir qu'ils peuvent projeter la voix. Souvent, les voix sont contenues, serrées, Ou tout d'un coup, donc je leur ai fait faire des exercices de respiration, de nasal, comme on fait au théâtre, parce que moi je viens du théâtre. Bien sûr, on va respirer par le nez, mais ce qui m'intéresse, c'est par la bouche. Donc on va expirer en mettant une main sous le nombril pour dissocier le diaphragme ventral du diaphragme thoracique et du diaphragme laryngé. Il y a trois diaphragmes, c'est comme un accordéon, comme un soufflet d'accordéon. On va expirer, vider la colonne d'air, vider le ventre, puis on va faire un temps d'apnée, ça tout le monde connaît, on respire plus. Et par la bouche, on va inspirer. Puis après, je fais faire un exercice, le cheval, pour que tout d'un coup, les labiales et l'articulation puissent se faire. Et puis après, je fais mettre les doigts sur le nez pour sentir les résonateurs. Bouche fermée. Et puis après, on refait cet exercice et on va ouvrir la bouche.
Et une fois qu'on a fait ça, on est libéré pour parler sans crainte.
On essaye. En tout cas, c'est la classe. On a tous le droit à la parole. On doit se faire entendre. Même les experts comptables, c'est pas très sexy ce qu'ils ont à dire. Jongler avec les mots, s'amuser, devenir son propre poète, c'est magnifique. Et c'est souvent les plus taiseux, les plus timides, qui sont les meilleurs orateurs. Parce que ce sont eux qui portent l'authenticité. Et quand ils parlent, quand ils ouvrent la bouche, quand ils envoient un message, on est touché en face.
Si nous sommes touchés, c'est que les mots, comme des pistolets, atteignent souvent leur cible en plein cœur. Les spécialistes du discours, de Cicéron à Sartre, distinguent ceux qui se battent à coups de rimes et de rhétorique. Impossible donc de conclure cette émission sans parler des avocats. Depuis deux siècles, à Paris, ils organisent le concours de la conférence qui permet de désigner 12 vainqueurs chargés d'assurer la défense pénale des plus démunis. Sophie Parmentier s'est glissée au milieu des robes noires d'avocats un soir où l'actrice et comédienne Laure Calamy était l'invitée d'honneur du jury.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Je déclare ouverte la 19e séance du premier tour de la conférence du stage. Et j'appelle pour le premier sujet qui est « Les amours cachés s'abîment-elles à la lumière ?» Monsieur Élie Dautelonde.
Nous parlerons aujourd'hui des vrais amours cachés. Des amours cachés, il en existe des milliers, comme la dernière histoire de mon cher père. Je ne l'ai pas apprise autour d'un café, pas même par un texto maladroit, non. Rien de tout ça, mais plutôt grâce au message d'un ami accompagné d'une story TikTok. Le message dit simplement « Ce serait pas ton père dans cette story ?» Mon père, sur TikTok ! La vidéo démarre et là, coup de massue. Mon père en boîte de nuit. On l'y voit bras dessus bras dessous avec une blonde sensiblement plus jeune. J'ai tout de suite compris qu'elle n'était pas une amie. Et alors, définitivement pas ma belle-mère. Alors, je l'ai appelé. Il a bafouillé. Il m'a dit, mais tu sais, c'est tout nouveau, hein, et surtout, tu gardes ça pour toi. Jusqu'à ce que la lumière surgisse. Brutalement, avec les néons de l'hôpital. Et c'est dans cette salle d'attente glaciale que je l'ai vue, elle, la femme de la boîte de nuit. Elle est arrivée essoufflée et tremblante au grand jour pour le retrouver. Et puis, elle lui a tenu la main. Elle ne l'a pas lâchée, pas une seule seconde. Elle n'osait plus dire à demain. Elle savait qu'il allait quitter ce monde. Ce n'est pas la lumière qui détruit l'amour, c'est le temps qu'on met à l'y exposer. On n'a pas toujours le luxe de le vivre au grand jour par crainte des regards, par peur d'être jugé. C'était une belle union, un doux séjour qui a illuminé mon père jusqu'au dernier instant. La lumière n'a pas éteint leur amour, elle l'a ravivé.
Dans le jury, Laure Calamy prend la parole. Elle a les larmes aux yeux.
Merci. Waouh. Excusez-moi. Donc voilà, bon. Voilà, ça sert de, quand on est actrice, hein, d'être émotive, mais là, pour vous parler, c'est un peu pénible. Pourquoi avoir envie de pleurer? Non, je suis émue, je suis touchée par, par ce discours. J'ai l'impression d'être avec vous, d'avoir vécu avec vous. J'adore, c'est trop beau. Moi, ce qui m'émeut, c'est d'entendre les voix. Enfin, une voix qui peut être fragile, qui va se casser, qui va d'un coup être prise par l'émotion ou au contraire par la rage. Et ça, je trouve ça beau et je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de micro, quoi. Voilà. Bref, pardon.
C'est la fin des discours pour ce soir. Le jury est en train de se lever. Je vais m'approcher de Laure Calamy, aux côtés de l'avocate qui a eu l'idée de l'inviter ce soir.
On s'assied dans un petit coin, peut-être ?
Ouais. On vient de voir de jeunes avocats discourir. Je vous ai vu, Laure Calamy, vous les avez écoutés attentivement, vous avez souri, applaudi, vous avez été émue. Vous aimez l'éloquence ?
Moi, je viens du théâtre. J'ai toujours été très intéressée par ce métier-là, un peu fascinée. Cette chose d'une mission, une petite mission qu'on aurait. Là, il y a quelque chose que je trouve beau. C'est intéressant de voir aussi la personnalité de chacun. Un bon avocat, c'est évidemment une personnalité, une intelligence, une manière d'attraper et de mettre son style à soi. Enfin, ça... Et je pense que voilà, c'est ça qu'on voyait, ceux qui étaient plus ou moins affirmés dans leur prise de parole et dans le déploiement de leur pensée, de leur sensibilité. C'était passionnant.
On a vu ces jeunes avocats qui tentaient de convaincre l'auditoire en cherchant le mot juste et en jonglant avec leurs mots. Vous, vous aimez jongler avec les mots quand vous êtes sur les planches ou derrière la caméra ?
Ouais, j'aime jongler, ou en tout cas, j'aime les mettre en bouche. Je ne sais pas comment dire autrement. Il y a quelque chose, il y a certains mots qui peuvent d'un coup m'émouvoir très profondément et on ne sait pas pourquoi. C'est comme... Et puis d'autres qui vont me faire rire. Enfin, c'est se laisser traverser par ouais, l'émotion des mots de telle phrase ou du silence aussi avant telle phrase, etc. Ou après, moi, ça m'émeut beaucoup, en tout cas, surtout quand c'est les mots des autres. Moi, je peux perdre mes moyens très facilement et du coup perdre les mots. Parce que... Et en même temps, j'ai pu avoir être intimidée par la prise de parole et en même temps, elle me passionne et je peux ne plus l'aide du tout. Enfin, voilà, c'est ce mélange qui fait que, bah oui, je suis actrice, mais je veux dire, là, par exemple, si je dois formuler des choses là dans une interview, bien sûr, j'ai envie de bien dire les choses, de faire comprendre la complexité des situations qu'on traverse quand on est actrice, acteur. Et voilà, parfois, j'ai l'impression qu'il faut se dépêcher, qu'il faut résumer quelque chose et j'ai l'impression que je vais perdre mes mots. Donc voilà, en fait, je ne vous ai pas vraiment répondu. Bref, il y a des gens sans doute qui ont... confiance peut-être un peu plus... Mais je pense que c'est quelque chose qui se construit, la confiance en les mots, en sa parole.
Merci beaucoup, Laure Calamy.
Merci.
Pour ces quelques mots.
Merci.
Prononcés avec éloquence.
Merci.
Merci. Je m'appelle Aimée Cléman, je suis avocate et sixième secrétaire de la conférence.
Vous êtes une jeune, brillante avocate. Vous avez remporté ce concours d'éloquence l'année dernière. Et donc là, vous êtes dans le rôle de juge, en fait, des candidats de cette année. Vous-même, malgré votre éloquence, il vous arrive d'avoir peur quand vous prenez la parole dans un prétoire ? Il vous arrive de trembler ?
Oh oui, bien sûr. Moi, quand je n'ai pas assez préparé mon texte ou ce que j'ai à dire, ou quand je n'ai pas la vision, justement, une visibilité suffisamment claire sur la manière dont je vais délivrer mon discours, je trouve ça assez angoissant parce que lorsque vraiment on défend la parole de quelqu'un et que notre esprit se brouille pour une raison ou une autre, hein, après, on est tous humains, que ce soit la fatigue, le manque de temps pour prendre connaissance d'un dossier, malheureusement, ça arrive. Moi, en tout cas, personnellement, quand je n'ai pas fait le travail préalable de me dire « Ok, je prends la parole, qu'est-ce que je veux dire ? Quel est le message que je veux délivrer ?» Il m'est déjà arrivé de perdre pied, oui, bien sûr. Je trouve qu'au-delà de l'usage des mots, en fait, il faut aussi savoir ce qu'on vient dire. Donc, au-delà des effets de manche qu'on peut souvent reprocher aux avocats, l'éloquence, est-ce que c'est pas simplement avoir un propos épuré et aller droit au but pour convaincre ?
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avocate ?
Là, en tout cas, avec la conférence, on a vraiment accès aux dossiers des plus démunis. On est leur dernière parole, on est en tout cas les dernières personnes avec qui ils sont en contact avant de se faire juger. Enfin, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens d'être défendues, enfin, de payer leur avocat. Donc, on est vraiment là pour les défendre au mieux. Et oui, peut-être que c'est une façon de sauver ceux qui ne peuvent pas parler.
Éloquent, c'est un reportage de Sophie Parmentier.
Vous connaissez l'émission Interception ?
Non, mais on va l'écouter maintenant qu'on vous a rencontré.
Viens, on l'écoute tous ensemble.
Ouais.
À la prise de son, Hélène Langlois, Michel Gassic, Michael Simon et Jérémy Tuile. Réalisation, Gaëtan Colli, attaché de production, Martine Messonnier. Mixage, Manon Houssin.
Interception, parce qu'on intercepte les bonnes ondes.
Pour réécouter cette émission, abonnez-vous à Interception sur l'appli Radio France.